Faire interférence avec ça. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Ça va ce matin?
Oui,
c'est bien, gloire à Dieu. Merci Seigneur, nous avons pu envoyer de l'argent en Afrique pour la veuve d'un pasteur, le pasteur Paul, qui est décédé, et son épouse est dans le besoin, et Nicolas me l'a fait savoir. Et nous avons pu envoyer un don grâce à vous, les donateurs. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux, que Dieu vous bénisse, merci. Il y en a un qui bat tous les records, c'est Samuel Cantral. Je ne connais pas ce frère, je n'ai même aucun moyen de le contacter, sauf cet écrit, voilà. Merci frère, Dieu vous bénisse, vous avez battu tous les records. Là, on applaudit. Voilà, que Dieu vous garde et vous aide. Il y a plein de gens comme ça qui nous écoutent et on ne sait pas qui c'est. Manifestez-vous, écrivez-nous, envoyez-nous des photos, je ne sais pas moi. Ça, si vous m'écrivez, après ça tombe dans mes mails et puis moi je vous réponds et c'est sympathique, c'est bien de se connaître un peu mieux. Matthieu chapitre 24, pardon, verset 15-22. C'est Jésus qui parle. Matthieu 24, 15. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors voilà, maintenant, ça, c'est pas pour nous, on n'y sera pas. Parce que ça se passera pendant la grande tribulation. D'accord? La grande tribulation a lieu après l'enlèvement de l'épouse. Donc, nous serons loin. Amen. Amen. On se prépare pour ça. Alors que celui qui lit, fasse attention. Ceux qui seront en Judée, fuyez dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui ajouteront ces jours-là. Priez pour votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat. Alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des grands prodiges, des miracles, au point de séduire s'il était possible même les élus. Voilà, je voulais annoncer d'avance. Amen. Eh oui, Jésus pense à ceux qui vont rester pendant la grande tribulation, et même des élus, vous voyez, il y aura des élus qui seront là, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas été enlevés, qui n'auront pas marché correctement, et on va voir ça un peu ce matin. Eh bien, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Dieu est bon, Dieu est bon. Il n'y a que peu de personnes qui, en réalité, vont entrer dans le processus du rétablissement de toutes choses que tous les prophètes ont annoncé et qui est quelque chose qui arrive dans notre époque juste avant l'enlèvement de toute chose, juste avant l'enlèvement de l'épouse, excusez-moi. Alors j'ai tout à fait conscience que les messages que je donne en ce moment ne seront découverts qu'après l'enlèvement de l'épouse. Il y a juste un peu, quelques milliers de personnes qui viennent écouter, mais c'est rien à comparer des milliards qui sont sur cette terre. Maintenant, je ne suis pas le seul à parler, il y en a encore d'autres qui parlent de cela, mais en fait, quand même, c'est assez rare que quelqu'un se mette à parler au sujet du rétablissement de toute chose. La plus grande partie des gens se contentent de leur petit monde étriqué, parce que finalement, l'ignorance rassure. L'ignorance rassure. Et puis, la curiosité des curieux inquiète. C'est vrai. Les gens, la plupart du temps, ils veulent des journées qui se ressemblent. Ils veulent que demain soit comme hier. Ils n'ont pas... Parce qu'il faut se bouger, et ça c'est fatigant. Ça c'est fatigant. Alors, je connais des gens riches, je connais des gens pauvres, ils sont presque tous pareils. Dans ce moule-là, ils cherchent ce qui est terrestre, les choses de l'esprit, Bon, voilà. Alors, évidemment, on est tous à un stade en dessous par rapport à certaines autres personnes. On ne peut pas dire, moi, je suis en haut par rapport à quoi, par rapport à qui. Mais nous devons savoir nous-mêmes que nous faisons le meilleur. C'est ça qui est important. Comment peut-on aimer rester dans l'ignorance? Comment peut-on ça? Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Michou et moi, cette semaine, nous avons parlé avec un de nos amis qui est médecin. Et vous savez que, à nos âges avancés, nous recevons un papier qui nous dit que nous avons droit au vaccin. Et puis alors, étant donné que ce médecin est un ami, alors il a ouvert son cœur et Michou est arrivé jusqu'à lui dire, mais en fait, comment ça se fait que les grands professeurs font la publicité pour ce vaccin anti-grippe? Alors, c'est ce qu'il a répondu, il a dit, c'est simple, si vous êtes éduqué catholique, vous croyez qu'il n'y a que ça qui est vrai. Et voilà, les gens ne veulent pas sortir de leur truc. Ce même médecin nous disait, mais il y a 40 ans, on ne voyait pas tant d'enfants dans les hôpitaux avec de l'asthme, avec de l'eczéma, avec des... Tout ça, ça vient de tous ces trucs. Les médecins, en général, ne parlent pas comme ça à leurs patients parce qu'ils ne sont pas forcément amis avec leurs patients. Et ça, c'est une chance d'avoir des amis dans la médecine qui nous disent, attention, faire gaffe, il y a des trucs... Maintenant, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas vous vacciner, mais... Je pense que s'il y a une grippe tout à fait particulière qui se déclenche, eh bien, allez vous faire vacciner. Si vous êtes sûr que c'est la grippe dont le vaccin est adapté, sinon, ça, voilà quoi. Il y a des millions et des millions qui sont dépensés comme ça chaque année, et puis ça fait pas trop de bien. Or, il faut savoir qu'en médecine, comme dans tous les domaines, il y a des gens qui pensent autrement et qui peuvent aussi avoir raison. Qui peuvent aussi avoir raison. Par exemple, en médecine, puisqu'on je parle de médecin, en médecine, la médecine occidentale, notre médecine, la médecine dont on a l'habitude depuis qu'on est tout petit, parce qu'on est tombé dedans quand on était tout petit, eh bien la médecine occidentale, elle méprise la médecine orientale. Eh bien, c'est bien dommage parce que ils ont des médecines qui sont vieilles de plusieurs milliers d'années et qui sont très efficaces. Mais on ne sait pas, on ne nous informe pas, on ne nous dit pas tout. Vous savez, la médecine orientale est en train de progresser. Lisez, renseignez-vous, apprenez. Et ils vont prendre le dessus sur notre médecine à nous. Vous savez pourquoi? Parce que les orientaux sont humbles et étudient notre médecine pour l'adapter à leurs connaissances. Alors que ici, nos pontes de la médecine occidentale sont orgueilleux et ils ne veulent rien savoir au sujet de la médecine orientale. Voilà, c'est comme ça. C'est l'orgueil qui fait que les gens restent dans leur truc, dans leur casier, ne veulent pas en sortir, ne veulent pas évoluer, parce qu'ils ne veulent pas être dérangés, un, et deux, ils sont orgueilleux. C'est comme ça. Et c'est dans tous les domaines. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Dans la politique, c'est la même chose. Bientôt, on va voter. Vous allez voir, ils vont voter pour les mêmes. C'est terrible. C'est terrible. Beaucoup de chrétiens se sont tellement habitués aux mensonges des religions dites chrétiennes que la vérité moyenne orientale a un air suspect à leurs yeux. Mais la religion chrétienne, elle vient du Moyen-Orient. Et dans le Moyen-Orient, en plus, il y a 2, 3, 4, 5 000 ans, on ne pensait pas comme aujourd'hui. On ne pensait pas comme aujourd'hui. Les Européens et les Américains ont une forme de pensée qui est très bien, mais cette forme de pensée est très différente de la forme de pensée des gens du Moyen-Orient, et surtout des gens du Moyen-Orient qui ont écrit ces textes dictés par Dieu. Alors le problème de l'Église occidentale, c'est qu'elle ne veut pas la connaissance réellement scripturaire, réellement biblique, parce que cette connaissance les oblige à changer d'état d'esprit. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Et puis ça demande de l'humilité. Et ça, c'est pas le fort des Occidentaux. Je sais, j'en suis un. Il faut de l'humilité pour aller oser fouiller dans des choses autres que celles... qui sont dans notre cadre. Moi, je suis né dans un cadre pentecôtiste. Ben, quand j'ai voulu aller regarder un petit peu ailleurs, je me suis fait incendier par les pontifes, n'est-ce pas? Alors, j'ai fait comme ça pendant quelques temps, puis après je suis carrément sorti du cadre, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus confortable et enrichissant. Rares sont les gens qui acceptent de remettre en question leur vision limitée du christianisme qu'on leur impose dans la tradition, dans l'Église. Et si on ne bouge pas spirituellement, eh bien, on va devenir des obèses, immobiles, sans aucun projet de vie, et en plus, satisfaits d'être comme ça. Satisfaits d'être comme ça. Grave, quand même. Obèses, comme ces méga-églises, vous savez, maintenant c'est la grande mode. L'autre jour, quelqu'un venu chez moi me dit, t'as combien de personnes qui viennent écouter sur ton site? C'est une chose dont je n'avais jamais regardé. Combien de personnes? Bon, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce que je sais, c'est ce que je reçois de Dieu. Je le donne et prends qui voudra. Mais ça, c'est vrai que ça ne me passe pas par l'idée d'aller contrôler, d'aller voir. Je ne sais même pas si on peut le faire. Ces méga églises, n'est-ce pas, obèses, où les gens ne se connaissent pas, parce qu'ils ne se connaissent pas. Je sais comment ça se passe. J'y prêche dans ces églises de temps en temps. On peut souffrir de solitude tout en étant entouré de milliers de membres. C'est comme ça. Mais ils se sont habitués à être toujours seuls. Ils se sont habitués à ne pouvoir compter sur personne. Donc, ils ne donnent pas, ils ne se donnent pas, ils n'osent rien demander. Ça va dans les deux sens. Parce qu'ils sont dans un système comme ça, d'obèses spirituels gavés qui ont un cadre et qui n'en sortent pas. Et voilà, c'est terrible. Mes frères et sœurs, c'est pas ça le christianisme. C'est pas ça. Dans le vrai christianisme, selon Jésus et selon les apôtres, nous sommes tous, absolument tous, des véhicules qui aidons la vie à circuler au travers de nous pour se répandre. C'est un partage. On a tous quelque chose à partager, on a tous un talent différent. Et on c'est même pas un devoir de partager. Mais c'est normal. C'est normal. Alors vous allez me dire pessimiste. Mais vu où en est le monde et où en est l'Église aujourd'hui, eh bien, ce qui va l'emporter, c'est la violence. C'est la violence. Parce que les gens s'ennuient, parce que les jours se ressemblent tous, et qu'il y a quand même l'énergie de la vie en eux qui existe. Cette énergie, elle est en chaque personne. Et comme il n'y a pas de partage, parce que personne ou presque n'a de respect pour les croyances autres que les siennes, par les façons de vivre différentes, parce que personne cherche à contacter l'autre, même dans le même groupe, pour aller voir comment il va, ce qui se passe, poser des questions, donner ou demander, personne ne le fait. Donc alors, c'est la violence qui va éclater comme un orage, parce que toute cette énergie, ça ne peut pas demeurer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une concentration d'énergie qui va exploser. Et c'est là où le monde va, et c'est là où va l'Église. L'Église va passer en premier. D'ailleurs, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit? L'Église est persécutée, mais des milliers, des centaines de milliers de nos frères et sœurs sont persécutés. Et le monde chante. Et voilà. Puis alors, après, les beaux jours vont revenir, parce que Jésus va finir quand même par mettre de l'ordre là-dedans, mais après un temps de terreur, après un temps d'attentats, de guerre civile, de guerre mondiale, de pestes diverses, parce que ça va comme ça, ça va dans ce sens-là. Vous savez pourquoi il y a la peste? Vous savez pourquoi il y a la peste? Jésus dit il y aura diverses pestes. Ouh là là, c'est pas facile à dire ça. Vous savez pourquoi? Parce que les rats sont des milliards plus nombreux que nous. On ne les voit pas, mais on leur construit des habitations extraordinaires avec les égouts, avec le métro, dans les grandes cités, dans les grandes villes, partout. Et puis, comme en temps de guerre, eh bien, il y a des immondices qui se mettent partout. Vous vous rappelez à Paris, Michou me disait hier, à Paris, quand les poubelleurs, comme on les appelle, ne passaient plus, mais il y avait des gros rats qui se baladaient dans les rues. Michou, il adorait aller au travail ces jours-là. Hein. peur des rats, c'est normal. Mais Jésus va nous enlever de tout ça, de cette terre, il va enlever tous ceux qui se seront enrichis avec l'huile sainte, la parole pour notre temps, en prenant connaissance, en la vivant, en parlant, dans leur famille, en vivant ces choses dans leur famille, dans leur communauté spirituelle, dans leur travail, en fait dans tous les domaines de la vie, ceux-là seront enlevés, les autres, ils passeront par l'orage. Les autres, ils passeront par l'orage. Ils participeront à cette violence mondiale que la Bible appelle la grande tribulation. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde actuellement? Il y a des gaz empoisonnés, il y a des virus mortels, il y a toutes sortes de choses, il y a des radiations de bombes atomiques, mais tout ça c'est enfermé pour le moment. Mais ça va péter, hein. Ça va péter. Et puis surtout, il y a activement un grand lavage de cerveau organisé par les médias, les politiques et les religieux. Un grand lavage de cerveau. Tout ça, c'est encore un peu sous pression, mais ça va exploser comme un orage. Pourquoi? Parce que ce lavage de cerveau fait des fanatiques. Alors vous avez des fanatiques qui sont mollassons, qui se contentent simplement de dire aujourd'hui notre église c'est la seule église au monde, la seule vraie église. Mais comme on leur a coupé les pattes, ils ne peuvent plus nous mettre sur le bûcher, donc pour le moment ça va. Mais il y en a d'autres, parce que ce sont des esprits religieux qui changent de corps, qui vont ailleurs et qui se manifestent autrement. Et le fanatisme est l'arme de destruction massive la plus efficace. Le fanatisme. Le peuple se fait laver le cerveau, on lui répète des trucs faux, mais tellement souvent qu'il finit par y croire vraiment, mais absolument. Regardez ce qui est déjà visible au sujet de cet orage qui vient, qui se pointe à l'horizon. Alors des politiciens, des religieux font croire aux plus naïfs. Quand tu as des humains, ils auront des récompenses dans le monde spirituel. Et ça marche, hein? Ça marche. Ça marche tellement bien que toute notre société est en train d'être bouleversée. C'est quand même inouï. Pourquoi? Parce que personne ne peut prouver le contraire que ce que disent les politiques, les religieux et les médias. C'est terrible. Et quand l'enseignement de Jésus et des apôtres est donné, c'est-à-dire un enseignement de paix, d'amour, de communion fraternelle, de partage, quand cet enseignement est donné, ben, la grande majorité trouve ça louche. Il doit y avoir de l'intérêt là-dessous. Ben voilà, parce qu'ils voient, on leur a appris à penser comme ça. Alors c'est à nous de prouver que ce que nous disons est vrai par notre vécu. Dans notre travail, dans nos relations avec nos voisins, avec notre site internet, quand on voyage, partout là où nous allons, dans notre profession, c'est à nous de prouver que ce que nous disons est vrai. Il nous faut communiquer par la parole et par les actes. Il faut le faire. Il ne faut pas rester... c'est ça, être des témoins. Ce qui va arriver, mes frères et sœurs, c'est pire que ce qui est déjà arrivé. Qui croit ça? Pourtant, Jésus le dit, on l'a lu là. Alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ce qui nous pend au nez, c'est terrible. Qui le croit? Ce que Jésus dit, que nous trouvons dans ce texte que je vous ai donné, concerne ce qui va arriver juste après l'enlèvement. Je viens de vous dire, comme Jésus l'a dit, que ce qui va arriver, cet orage, cette grande tribulation, sera la pire des choses qui n'est jamais arrivée. Regardons alors un peu ce qui est arrivé dans le passé. Tout de suite, à quoi on pense, nous autres, les deux dernières guerres mondiales? Oui, c'est vrai, c'est épouvantable. Mais allons un peu encore dans le passé. Quelques chiffres. Entre 1348 et 1350, la peste noire a tué 25 millions de personnes en Europe. Vous savez ça? C'est-à-dire à l'époque, c'était la moitié de la population. 1 sur 2. À cette époque, les survivants se sont aperçus que dans les campagnes, là où il y avait des chats chez les paysans, les gens comme ça, eh ben, les gens mouraient moins. Quelles conclusions ont-ils eues? Et pourquoi ont-ils eu ce raisonnement-là? Je vais vous le dire. Ils ont eu comme conclusion que les chats étaient responsables de la peste et qu'ils étaient remplis de mauvais esprits qui protégeaient maléfiquement et sournoisement leurs propriétaires. Et vous savez à quoi ils sont arrivés? À tuer les chats et à tuer les gens qui avaient des chats. Mais c'est vrai, c'est historique. C'est pas une histoire que je vous raconte pour faire. C'est vrai, le pape, comment il s'appelait? Innocent VIII à l'époque. Un pape, ce qu'il dit, c'est infaillible, hein? Infaillible. Il a décrété que la nuit de Saint-Jean, vous savez, la nuit, une jolie chanson sur la nuit de la Saint-Jean, hein? Que la nuit de Saint-Jean serait une date où tous les bons chrétiens devaient capturer des chats et les jeter au bûcher. Intelligent, hein? Innocent VIII était un pape, donc un infaillible. Et donc si les gens ont tué, c'était parce que le pape a dit. Le pape a dit. Mmh. Vous connaissez la chanson? Mmh. Et le temps a passé. En 1540, hein, là ce que je vous disais, ça s'est passé entre 1348 et 1350. En 1540, deuxième épidémie de peste. Et une nouvelle fois, la moitié de la population est morte. Et de nouveau, les possesseurs de chats ont été accusés par les survivants d'être des pratiquants de la sorcellerie avec ces animaux qui sont remplis de démons. Et ils ont été mis à mort. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de gens morts à cause de la peste et plein de gens morts à cause de la persécution religieuse. Ah, c'est bien la religion! Et finalement, les médecins ont fait le rapprochement entre le fait de posséder un chat et celui d'être épargné de la peste. Ils se sont rendus compte que c'était les rats qui étaient porteurs de la peste et que les chats tuaient les rats, donc il y avait moins de morts là où il y avait des chats. Mais ça a pris des siècles pour qu'ils se rendent compte. Et en attendant, que de morts, que de morts, que de morts. Alors le pape Sixte V s'est levé et il a dédiabolisé les chats. Bravo! Et il a autorisé aux chrétiens d'en posséder. Ah! Et le bon peuple, il suit. Voilà. Lui aussi, il est infaillible, Sixte machin-là, comme Innocent VIII. C'est intelligent. Hein? Pourquoi il est infaillible? Parce que les gens croient ça. 50 millions de morts tout de même, hein, plus tous ceux qui ont été accusés de sorcellerie et qui ont brûlé sur le bûcher avec les chats. Et Jésus dit que ça sera pire pendant l'orage qui vient, la grande tribulation. Voilà pourquoi je vous dis tout ça. C'est parce que Jésus dit que ça sera pire que ça. Ça sera aussi religieux. Alors, c'est vrai que depuis ces drames horribles, que furent ces deux épidémies de peste, la science nous a sorti des persécutions religieuses. Hein, il a fait changer l'infaillibilité, un petit coup c'est mal, un petit coup c'est bien, Innocent, Sixte, vous voyez, grâce à la science. Mais la science, elle a provoqué d'autres tourments aussi. Et de nos jours, d'autres religieux menacent comme un orage violent, et voilà, c'est l'histoire qui... Alors la majorité des gens oublient ces choses, ils oublient comment ça s'est passé et ils ne tirent pas de leçons de l'histoire. Alors l'histoire se répète en pire, en pire. Entre chaque crise, les gens se baignent dans l'insouciance, pensant que ça ne se reproduira plus. La der des der, ils ont dit là pour les... Mais depuis les deux guerres mondiales, il y a encore eu plus de morts par guerre dans le monde que pendant les deux guerres mondiales. Vous savez ça? Bien sûr. Alors ils se racontent des fables, ils se racontent des histoires. Leur cerveau gère toutes sortes de légendes qu'on nous passe dans la télé, hein. Formidable, ça gère tout ça. Et puis toutes ces infos, on les range, n'est-ce pas, dans des casiers de notre cerveau, on filtre tout ça, et on n'en fait rien du tout. On n'en fait rien du tout. Oh, comme l'ignorance est confortable. Aujourd'hui, les gens écoutent, mais ils n'entendent pas, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne veulent pas prendre de décision qui les oblige à changer d'état d'esprit. Et puis aussi par peur de se tromper.
Mais qui a raison ?
Alors, ils veulent que rien ne change. Mais c'est impossible. C'est impossible que rien ne change. Alors, ils se soumettent aux politiques. Comme je vous disais tout à l'heure, ils vont encore élire les mêmes. Ils se soumettent aux religieux, ils se soumettent au système financier, bien qu'ils croient qu'ils ne leur sont pas soumis.
« Ah non, moi je ne suis pas soumis aux religieux. »
Parlez avec quelqu'un, écoutez bien ce qu'il dit, vous allez voir comment ils sont pétris de religion, mêlés de superstition. C'est fou. C'est peut-être parce que je parle avec beaucoup de monde dans ce domaine-là et que les gens s'ouvrent, que je m'en rends compte. Mais je vous promets, les gens sont mis dessous. Quand je dis qu'ils sont soumis, ça veut dire qu'ils sont mis dessous. Ils sont mis en dessous de tout ça. Leur vie, en fait, elle est régie par les autres. Par les autres. C'est-à-dire qu'ils sont des irresponsables. Donc, bien tranquille, c'est pas leur faute si ça tourne mal. Même maintenant, quand ça ne va pas bien, au point de vue du temps, on dit que c'est le gouvernement. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous donne ce qu'il nous faut dans la Bible et dans le livre de Mormon pour que nous ayons ce que nous avons besoin d'avoir. Et ce que nous avons besoin d'avoir, c'est d'associer les bons éléments ensemble. C'est comme un puzzle. Il faut que les pièces, elles aillent ensemble. Pour le moment, dans l'esprit des gens, c'est la confusion. Ils ne voient pas l'image finale, ils ne voient pas comment ça se passe. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. L'autre jour, je parlais avec une dame, elle m'a dit, ah bon, mais je ne savais pas, et pourtant, bon, mais très catholique, tout ça. C'est écrit dans la Bible, ah bon, je ne savais pas. Les diverses prêtrises et leurs clés nous ont été données. Ceux qui n'ont pas ces clés ne savent pas à quoi relier ceci avec cela. Ils ne savent pas. Ils ont toutes les pièces, mais ils ne savent pas comment les relier. Donc, ils ne voient pas la chose dans la réalité. Ils ont pourtant tout. Ils ne font rien avec. Ils sont dans la confusion. Les choses restent incompréhensibles. Ils sont comme dans un rêve qui devient un cauchemar. Et ils interprètent la vie, d'une manière bizarre. D'une manière bizarre. Très bizarre. L'autre jour, il y a un de mes grands amis qui est venu me dire « Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je viens pour assister à ton... à, comment il m'a sorti ça ? Attends, à ton échec. Enfin, quelque chose. » Et puis il y avait une espèce de contentement dans la voix. « Mais de quel échec tu parles ?» Pour lui, il voit que tous les problèmes que nous avons eus sont des échecs. Mais ce n'est pas du tout des échecs. Nous avons pris des décisions après avoir prié. Nous sommes des gens conduits par le Saint-Esprit. Où est l'échec ? Ils voient, ils interprètent les choses. Je me mettrai à ma place. Hein. Ils sont comme dans un rêve qui devient un cauchemar, mais ils ne s'en rendent même pas compte, parce que voilà, c'est une espèce de sommeil, un engourdissement. Ce qui leur arrive semble arriver un petit peu, c'est par hasard, vous savez, un truc aléatoire. Ou alors, pour les pseudo-spirituels, par la volonté d'un groupe obscur qui fait des choses en cachette, n'est-ce pas, les Illuminati, les francs-maçons. Bien sûr qu'il y a des gens comme ça. Mais attendez, s'il n'y avait pas des gens pour les suivre, ben, ils seraient tout seuls, hein. Oui ou non?
Mais bien sûr.
Je vous recommande encore une fois, parce que j'ai déjà dit, vous allez sur vous abonner, ça coûte 9,99€, je crois. C'est un truc de télévision qui s'appelle Netflix. Vous vous abonnez à ce machin-là et vous allez regarder la série. Après, vous vous désabonnez. Mais ça coûte 9€ et quelques par mois. Puis vous allez regarder cette série. Ça s'appelle House of Cards. Ça vous explique bien comment on se fout de nous. Comment, en haut lieu, on se fout de nous. Mais vraiment, mais d'une façon, avec un cynisme. Mais c'est terrible. C'est presque jouissif. Allez regarder ça, puis après vous vous désabonnez, parce que sinon ils vont vous empoisonner avec d'autres histoires, d'autres fables. Mais là, c'est pas une fable, ça raconte vraiment, c'est génial. Les chrétiens ont une croyance un peu absurde. Pour eux, Dieu récompense ou punit, et ils analysent les événements de leur vie et de la vie des gens en général de cette manière-là. Or, ici-bas, c'est pas comme ça que ça marche. Tout répond à des lois que Dieu a fixées, Dieu s'en occupe plus. C'est des lois qu'il a fixées. C'est tout. Et si on ignore ces lois, les récompenses ou les punitions peuvent paraître de temps en temps injustes. Certaines choses peuvent paraître des punitions alors que c'est des bénédictions. Si on ne connaît pas les lois, si on ne sait pas comment ça marche. Alors, ceux qui ignorent ces lois se plaisent à dire « Les voies de Dieu sont impénétrables. » Or, c'est faux, elles sont pénétrables. Celui qui cherche, y trouve. On ouvre à celui qui frappe, mais encore faut-il frapper. Chercher. Nous avons notre part à accomplir, nous avons l'histoire pour nous donner des exemples, nous avons les textes sacrés pour nous donner les clés, nous avons un cerveau, nous pouvons travailler avec, et les clés qui nous sont données dans les Écritures ouvrent des portes, celles de la bonne connaissance. Ne comptez pas sur les religieux pour vous donner la connaissance, ils sont très rares ceux qui sont honnêtes et qui vous donnent la connaissance. En général, les religieux n'aiment pas la connaissance. C'est pas nouveau. Ils préfèrent tout mettre sur le dos de la volonté de Dieu. Ah, ça, c'était la volonté de Dieu. Ah, ça, c'est la volonté de Dieu. Voilà, c'est simple comme ça, hein. Pour faire un petit peu court, c'est comme ça que les stupides persécutent les intelligents dans tous les domaines. Et que voilà, c'est comme ça l'histoire. Et cet orage qui viendra après l'enlèvement de l'épouse, on le voit déjà un peu à l'horizon, on entend des bruits, on voit les éclairs, on voit le ciel s'obscurcir, mais peu comprennent ce qu'il faut faire avec la lumière que Dieu donne. Ils ne voient pas l'importance de la lumière qui apparaît au soir de l'histoire de l'humanité, telle que c'est annoncé dans Zacharie 14, 7, ils ne la voient pas. C'est pourquoi je dis que vous êtes heureux si vous entendez ces choses que je vous enseigne, et vous êtes encore plus heureux si vous les gardez, parce que le temps est proche. Le temps est proche. Mes prédications concernant le rétablissement de toutes choses vous concernent. Mettez-vous devant Dieu pour avoir le pouvoir d'obéir. Vous savez, on a tous ici à la communauté le calendrier que Rachel nous offre chaque année. Merci Rachel, il faudra bientôt commander les suivants, parce qu'on arrive à la fin de l'année. Le texte de ce matin, c'est Hébreux 5, 7, 9. Je vous le lis. C'est Jésus qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils de Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez, on nous dit « Crois seulement ». Le salut n'est pas pour ceux qui croient seulement. Il est pour ceux qui obéissent. Jésus est l'auteur du salut de ceux qui lui obéissent. C'est un petit peu oublié tout ça, hein, c'est un peu négligé tout ça. Et pourtant, c'est une grande vérité. Jésus dit ailleurs qu'il en sera, pour notre époque, comme au temps de Lot ou comme au temps de Noé. Voilà deux personnages qui ont dû obéir pour être sauvés, pas seulement croire, mais ils ont dû faire quelque chose. Lot a dû sortir de là où il habitait, et puis Noé, il a dû entrer dans une arche. Il a dû fabriquer d'abord. Les deux n'avaient pas à obéir à la même chose parce que leur époque était différente. Donc Dieu leur parlait d'une façon différente. Et aujourd'hui, nous avons à obéir à ce que Jésus dit aujourd'hui. Mais que dit-il aujourd'hui? Que commande-t-il aujourd'hui? Mais la majorité des chrétiens ne le savent pas. Si vous allez dans les églises, vous allez entendre aujourd'hui, en 2016, la même sorte de message qu'on entendait dans les années 60. La même chose. Et ils disent tous, nous prêchons le plein évangile, il n'y a rien d'autre. Bon. Alors, ils ne vivent pas comme Lot, qui est sorti de la ville dont il devait sortir. Ils ne vivent pas comme Noé, qui a construit une arche puis qui est rentré dedans. Ils vivent comme les gens de Sodome et Gomorre. Ah bon ? Ben bien sûr, parce que les gens de Sodome et Gomorre, eux, ils sont restés dans Sodome et Gomorre, non ? Alors on dit toujours, oui, Sodome et Gomorre, bande de pédé, tout ça, oui, mais c'est pas... Dieu dit pas comme ça, hein. On va lire Ézéchiel 16:49. Alors, j'y suis. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. La sodomie ? Oui, mais ça c'est... Partout, il y a eu toujours ça. Bon. Quel a été le crime de Sodome, ta sœur ? Voilà ce que Dieu dit. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Voilà quel était le péché de Sodome et voilà pourquoi ils ont été détruits. Et Dieu a dit à Lot de sortir de là. Eh bien, le péché aujourd'hui de notre monde et de l'Église, c'est le même. C'est l'orgueil. L'évangile de l'abondance merveilleux, et puis cette insouciante sécurité. Ça va aller mieux, ça va aller mieux. On passe un sale moment, mais ça va aller mieux, vous inquiétez pas. Ça ne peut pas être comme ça tout le temps. Les terroristes, là encore, aujourd'hui je lisais dans Le Monde, François Hollande, il dit, mais ça va prendre fin tout ça. Enfin, si ça marche autant que toutes les promesses qu'il a faites... Voilà mes frères et sœurs, allez-vous entrer dans le rétablissement? Il faut que vous soyez spirituel, il faut vous dépêcher, parce que nous sommes déjà en 5777, l'année du jubilé. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous allez écouter mes derniers messages sur révélationbible.fr et vous le saurez. C'est une année très importante, cette année qui arrive, pas cette année qui arrive, cette année qui a déjà commencé, parce que c'est le calendrier juif qui a de l'importance, parce que tout vient d'Israël. Nous, on est en 2016, mais en réalité, d'après le calendrier juif, on est déjà entré dans 5777, depuis le 3 octobre. Tiens, le 3 octobre ? Oui, le 3 octobre. Et qu'est-ce qui s'est passé le 3 octobre, le jour où on est rentré ? Eh bien déjà, premièrement, la Russie et l'Amérique ont recommencé les chicanes. Vous avez vu que, là aujourd'hui, je voyais que au Yémen... Les porte-avions américains ont été visés par des missiles. Vous avez vu ça? Non, vous n'avez pas vu encore. Voilà. Bon, ils n'ont pas été touchés. C'était juste pour leur dire, voilà, on est là, on peut le faire. Voilà, c'est pas les Russes, hein, c'est autre. Mais c'est pour dire, voilà, c'est là, ça existe. On dit, oh, on a l'habitude depuis qu'on est tout petit, on entend ça à la télévision, et puis voilà. Oui. Nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. Il est temps de vous réveiller spirituellement et de mettre votre vie en ordre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur de nous aider à vivre ce que tu veux que nous vivions. Je te prie pour tous ceux qui écoutent sur Internet afin que eux aussi se mettent à vivre ce que tu veux. Comme Lot a vécu ce que tu voulais, comme Noé a vécu ce que tu voulais, comme Moïse a vécu ce que tu voulais, comme Abraham a vécu ce que tu voulais. Eh bien, nous aussi, nous devons vivre ce que tu veux pour notre époque, pour notre temps. Et je te demande d'éclairer chacun et chacune, qu'ils sortent de leur cadre, qu'ils enlèvent leurs visites, comment on appelle ça, les trucs comme aux chevaux, là, les visières, ou je sais pas quoi, mais, et puis qui regardent un petit peu ce qui se passe, ce qui se produit à la lumière des Écritures saintes. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu.